This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et j'avais 18 piges là, et je leur dis, je vais faire un concert. Ah bon, mais attends, mais tu vas monter sur scène là, tu vas faire un concert là, alors que t'as jamais vraiment fait rien. Ouais, mais... Et en fait, j'ai fait un concert. Donc, j'ai écrit des chansons et j'ai fait un concert. Et il y a eu un avant-après, je me rappelle plus de la date, au Sentier des Halles. Je suis sortie de là et là, j'ai vu que tout le monde me regardait en mode, mais en fait, elle est faite pour ça, cette fille, quoi.
Exécutée par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi, je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com. Donc, vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
Anna, bienvenue.
Merci.
Bienvenue dans l'histoire de succès.
Je suis ravie.
Anna Nash.
Ouais.
C'est voilà. On t'appelle plutôt Nash ou Anna dans la vie?
Franchement, ça dépend. Je dirais que c'est kiff-kiff, là. Ouais, ça y est.
Tu sors ton cinquième album.
Quatrième
album. Là, en fin octobre,
ouais.
Qui s'appelle Peau Neuve, où tu racontes ta mue.
Ouais, une renaissance.
Est-ce que ce serait pas un peu l'album de la maturité, finalement?
Écoute, je ne sais pas. mais en tout cas, c'est sûr que c'est un album qui est différent des autres. Ça, c'est sûr, parce que je l'ai fait d'une manière très différente. J'étais dans une période de ma vie chaotique, on peut le dire. Et donc, j'avais plus aucun repère, plus aucune attache. Je suis partie pendant 6 mois dans la nature, écrire ce disque. Et après, j'ai tout changé en rentrant. J'ai monté mon label. J'ai tout réinventé dans cet album. Tout. J'ai même fait une formation d'ingé son pour pouvoir produire ma musique. Donc, là,
pouvoir
c'est...
être indépendante, finalement.
Voilà. Totalement. Okay. Ouais.
Ça m'intéresse vachement parce que j'avais envie de parler avec toi de trouver sa place.
Ah.
Parce que j'imagine à quel point ton parcours est jonché de trouver sa place.
Exactement.
Et tu sais, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans? Et j'ai lu des trucs sur ta page Wikipédia.
Ils disent quoi?
Bah, que par exemple, à 8 ans, il y a ta grand-mère,
qui
s'appelle André, qui est une poétesse incroyable, qui est la maman de Louis, qui est ton papa, voilà, Louis Chédid. T'as filé un carnet pour que t'écrives des poèmes.
Ouais. Enfin, pas pour que j'écrive. Elle m'a en fait offert ce carnet. C'était une femme extraordinaire, mais une femme qui était vraiment assez mutique. Elle parlait pas beaucoup et elle était très secrète comme ça. Et pour mon anniversaire, elle m'a juste donné ce paquet. Et j'ai ouvert ce paquet. Il y avait un cahier dedans. C'est un cahier rouge que j'ai encore aujourd'hui, hein, évidemment. Et elle me l'a donné. Elle m'a rien dit. Elle m'a pas dit écris des trucs. Vas-y, exprime-toi. Non, elle me l'a donné. Et en fait, après, ça m'a. J'ai pris ça comme un espèce d'acte de passation. Tu sais, comme quand, je sais pas, ta grand-mère te donne son bijou de famille ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment un acte de passation, quoi. Un passage de flambeau là. Et en fait, j'ai commencé à écrire des poèmes assez médiocres, évidemment. Mais j'ai eu cette. J'ai commencé à déceler que j'avais un amour pour l'écriture et les mots. Que j'avais pas soupçonné, en fait.
À quoi tu ressemblais alors quand tu avais 7-8 ans, en dehors de cette effectivement cette passation là?
Bah j'étais justement une petite fille très très timide, hyper timide, un peu bizarre, je pense, parce que je faisais des claquettes, j'étais omnubilée par Fred Astaire et Audrey Hepburn, je regardais que des films en noir et blanc, j'écoutais que des chanteurs morts, enfin tu vois. Donc là où mes potes écoutaient les Spice Girls, des boys bands, ils regardaient je sais pas des gros films américains, des Scream et des machins, moi je regardais
t'as 36 ans, c'est ça, donc ouais, t'es une enfant ouais. des années 90
ah bah
quoi.
Ouais, à fond, du Hit Machine. Et donc voilà, donc j'étais un peu chelou, mais j'étais assez dans ma bulle. J'aimais bien créer des spectacles, créer des histoires. Je me réfugiais beaucoup là-dedans. J'étais pas très forte pour la sociabilité, quoi. Ça c'est sûr.
Et si je me trompe pas, en fait, donc ta très grande sœur, ta sœur aînée, et Mathieu,
ouais.
qui ont 15-16 ans de plus
ouais,
que toi, c'est
exactement,
ça?
Exactement, ouais.
Et avec Joseph, donc ton grand frère, mais ton plus petit frère, vous êtes plus proches.
Ouais, on a un an d'écart avec Joseph et j'ai 15 ans avec Mathieu et 16 ans avec ma sœur, ouais.
Et si je me trompe pas, en fait, il te faisait déjà poser des voix,
À 8 ans, justement, Mathieu sort son premier album, qui s'appelle, merde, comment il s'appelle?
Ah, bah voilà.
Oh là là, mon Dieu. Le baptême, évidemment. Son premier album, Le Baptême. Et en fait, il nous fait chanter. Il nous dit, ouais, venez les gars, on a 8 et 9 ans avec Joseph, venez au studio, j'aimerais bien vous faire chanter un truc et tout. Bon, ok. Donc là, on est au studio et là, je mets un casque sur les oreilles et je suis là. Et il me dit, alors tu vas devoir chanter. Tu dois retrouver ton enfance. Tu vas devoir chanter ça, ok? Et donc, je dis, ok. Donc, je me mets mon casque et je fais, tu dois. Donc, déjà, je m'entends, oh là. Tu dois retrouver ton enfance. Et là, je chante. Et là, j'entends Mathieu et son ingé son dire, putain, mais elle chante super bien. Elle chante hyper juste. Et là, j'entends cette phrase. Et je me dis, oh, ça se trouve, j'ai un talent. Ça se trouve, je suis quelqu'un qui peut faire des trucs dans la vie. Et donc, cette phrase a résonné. Je me suis dit, ah, ok, peut-être que le chant, ça peut être une voix pour moi.
Waouh. Mais c'est, tu vois, quand je parlais de trouver sa place.
Ouais.
Déjà, t'as un truc là, boum.
Ouais, et en même temps, dur parce que, dans le sens où, mon père fait la même chose, mon frère fait la même chose, donc c'est pas très original. Donc en fait, j'ai refoulé ça énormément après. Ouais. J'ai dit, non, mais moi, je ferais pas de la musique, j'en faisais parce que c'était ma passion, donc je chantais à fond, j'assommais tout le monde avec mes vocalises. Je chantais à fond, je faisais du piano, j'étais passionnée, j'écoutais de la musique tout le temps et tout, mais j'avais quand même ce truc à refouler un petit peu et à me dire non, mais moi je veux être différente, je serai pas comme tout le monde.
Ouais.
Donc c'est vraiment plus tard que j'ai fait mon espèce de coming out artistique en disant bon ok, je vais faire la même chose.
Mais alors pendant toute ton adolescence, où j'imagine justement tu refoules ça, t'as pas envie d'être comme ton grand frère,
ouais.
comme papa, etc. Qu'est-ce que tu fais?
Bah alors j'ai deux passions, le théâtre. Donc je fais du théâtre à fond parce que j'étais hyper timide, donc ça me permet un peu de m'ouvrir un peu aux autres, de commencer à jouer avec des gens, à sociabiliser un peu. Donc je rencontre mes meilleurs amis dans mon cours de théâtre par exemple, qui sont encore mes meilleurs amis aujourd'hui, Laura Domange, que tu connais un peu.
Bah oui.
Et voilà, et en fait je suis fascinée par la psychologie, parce que des personnages que je joue au théâtre, ça me fait rentrer dans la psychologie, et puis même la chanson, une émotion, qu'est-ce qui nous traverse, pourquoi ça nous traverse, tout ça. Donc en fait je me dirige plus vers là, je me dis tiens, peut-être la psy, ça peut être intéressant.
Études de psy.
Ouais, mais en fait, non. En fait, non. En fait, j'arrête assez vite les cours et je me dis, mais en fait, j'ai envie d'être artiste, quoi. J'ai envie d'écrire. Je suis en cours et je regarde la fenêtre et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai l'impression d'être emprisonnée, qu'on m'a attachée à une chaise et que je suis punie. J'ai qu'une envie, c'est d'aller voir le monde et d'écrire des choses sur le monde, quoi. Et donc, j'ai commencé à écrire, à faire des chansons un peu comme ça en cachette. Et puis.
En cachette?
Ouais.
C'est-à-dire que tu les montres à personne?
Je les ai pas écoutés. Ah non, jamais. Tu
mais
rigoles.
Pourquoi?
Parce que je me disais, bah, en plus, déjà, les deux là, enfin, les deux grands chansonniers de la chanson là, tu vois, j'étais pas hyper à l'aise. Je me disais, mais attends, ça se trouve, c'est nul ce que je fais. Je savais pas, tu vois. Et en fait, un jour, je dis à ma famille, je leur dis, voilà, vraiment un truc très sérieux. Je leur dis, bon, bah, voilà, écoutez, je veux faire ça aussi. Et je vais faire un concert. Quoi? Et en fait, j'ai booké le Sentier des Halles, une petite salle.
Ouais, ouais. Sentier des Halles à Paris.
Et j'avais 18 piges, là. Et je leur dis, je vais faire un concert. Ah non, mais attends, mais tu vas monter sur scène, là? Tu vas faire un concert, là? Alors que t'as jamais vraiment fait rien. Ouais, ouais, mais, et en fait, j'ai fait un concert. Donc, j'ai écrit des chansons et j'ai fait un concert. Et il y a eu un avant-après, je me rappelle plus de la date, au Sentier des Halles. Je suis sortie de là. Et là, j'ai vu que tout le monde me regardait en mode, mais en fait, elle est faite pour ça, cette fille, quoi. Et même moi, qui étais très timide, bah, j'étais hyper à l'aise sur scène. Tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'elle a, elle a pris un truc, ou quoi, tu vois? Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est un endroit pour moi, la scène, c'est sûr. Ouais. Et chanter mes chansons, c'est un endroit pour moi. Donc, en fait, j'ai pas le choix. Faut que je fasse ça.
Et J'imagine que d'un autre côté, t'as un peu ce truc de, ok, t'as ton grand frère qui se produit dans des Bercy, dans des Zénith, etc. Ouais. Tu te dis, ok.
Ouais. Ouais. Et en même temps, je me dis, en fait, au début, je me disais, quand j'ai signé en maison de disque et tout, je me disais, ok, bah, c'est ça le succès, c'est Mathieu. C'est-à-dire, t'as 12 victoires de la musique, tu fais 4 Bercy complets et t'es sur tous les médias. C'est ça le succès. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Je me suis rendu compte qu'en fait, le succès, c'était pas ça du tout. Le succès, c'était de faire un truc qui te transporte, qui te transcende, et porter un message dont t'es fier, créer quelque chose où tu vas te sentir à ta place, justement. Et en fait, c'est ça le succès. C'est ça une réussite pour moi. Une réussite, c'est d'avoir fait quelque chose qui est en totale adéquation avec ce qu'on a profondément envie de dire. Et là où est notre place, trouver sa place. Et moi, je sais aujourd'hui que j'aurai pas la même carrière que mon frère, et j'en suis heureuse quelque part, parce que je vais avoir ma carrière à moi, elle va s'écrire à ma manière. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pas d'essayer d'avoir la même chose que quelqu'un d'autre, c'est de trouver sa manière, son chemin à soi, et de prendre des portes. Parce que ces portes-là vont t'emmener là où tu dois aller, tu vois.
De prendre des portes dans la gueule, tu veux dire?
Bah ou d'ouvrir... ouais. D'en prendre pour en ouvrir d'autres.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais t'as grandi aussi avec l'idée que, ok, il fallait être à la hauteur de Mathieu, qu'il fallait être à la hauteur de ton père.
Ah bah évidemment, j'ai grandi avec l'idée de quand Mathieu m'a demandé à 22 ans de l'accompagner sur toute sa tournée pendant 2 ans, de faire ses chœurs et ses claviers. J'avais 22 piges, j'avais rien fait, je jouais aux vieilles charges dans 60 000 personnes. On a fait une tournée de 2 ans partout dans le monde, des trucs monstrueux, des zéniths, des machins, des Bercy, des 12 Olympia, enfin c'était n'importe quoi. Là, fallait pas déconner, quoi. Là, c'était pas parce que moi, jamais dans ma personnalité, je voulais qu'on se dise, je voulais que personne dans le public se dise, elle est là parce que c'est sa sœur. Mmh. Je voulais qu'ils disent, ok, elle est là parce qu'elle sait jouer du clavier, qu'elle sait chanter. Voilà, moi, c'était ça. C'était ça. Ou sinon, je me casse, je ne le fais même pas, le truc, quoi. Tu vois.
C'est à la fois un cadeau génial qui te fait, mais c'est aussi un putain de cadeau un peu empoisonné, quoi.
En fait, c'est l'école de la vie, quoi. Là, c'est toutes les écoles de musique ne peuvent pas rivaliser avec ça. Et en plus, ce qui était extraordinaire, c'est que je regardais beaucoup Mathieu faire. Donc, j'ai essayé de comprendre. J'ai vu côté scène ce qui se passait énergétiquement aussi, l'échange. Et ça m'a appris énormément, en fait. Ça m'a appris énormément sur l'exigence, sur quand t'es sur scène, il faut capter les gens, faut pas laisser tomber l'énergie. En fait, j'ai appris mon métier comme ça, quoi.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Incroyable. Mm. Je me souviens, donc je te disais là juste avant qu'on enregistre, la première vidéo qu'on a faite ensemble sur Mademoiselle, c'était en 2013, donc c'était il y a 10 ans.
Là, wow. Okay.
C'était encore, on avait enregistré une petite session acoustique, il y avait Joseph justement qui faisait les chœurs avec toi.
Putain de dingue.
Et au comptoir général, je mettrai le lien dans les notes pour que les gens puissent. Et c'est trop drôle en fait, parce que je t'ai vu et c'est vrai que tu avais cette grande mèche, tu te cachais un peu, on a l'impression.
Ah ouais, non mais de toute façon, moi c'est comment dire
Je cachais ton visage, clairement.
Ouais, je cachais tout, même, en fait, quelque part. Parce que je pense que quand on c'est au-delà de la musique, hein, là, c'est un peu plus philosophique, mais je pense que quand on commence à grandir et tout ça, il y a vraiment un truc où on a peur de nos ombres. On a peur de ce qu'on peut être dans le monstrueux, quelque part aussi. Et donc, on essaie de se façonner une image sociale comme ça, où on va justement passer entre les gouttes, essayer de trouver un peu une place, un peu de rayonner. Et en fait, on coupe une partie de nous-mêmes comme ça. On cache beaucoup de choses de nous-mêmes.
En tout cas, c'est ce que tu faisais.
C'est ce que je faisais. Ouais. Je pense que c'est ce que beaucoup de gens font. Je pense que l'adolescence, on essaye de trouver une posture comme ça, genre on assure, mais en fait, on est tous en panique, tu vois. Et la post-adolescence, c'est pareil, on essaie de devenir un peu un homme ou une femme, mais on est quand même tous en panique aussi. On doit choisir un métier, se trouver dans le monde. Enfin, c'est quand même hyper compliqué. Et en fait, quelque part, je pense que plus t'évolues, plus tu grandis, plus aussi, quelque part, t'accèdes à ces pardons, parce que t'es obligé, la vie te remet trop de choses dans la gueule pour pas y aller. Et donc, en fait, quelque part, t'épouses beaucoup plus tout ça. Donc, en fait, t'enlèves ta mèche, tu te caches plus parce que de toute façon, t'es imparfait et que t'es obligé de l'être. Donc, faut arrêter de se cacher ça, tu vois.
Comment t'as fait pour enlever ta mèche? Parce que tu le racontes là avec le recul, tu vois. Mais j'imagine que c'est pas aussi simple que
mais
ça.
Non, mais attends, c'est un voyage qui est sans fin. Et là, aujourd'hui, je te parle et je suis sûr que je suis en train encore de cacher des trucs que je te cacherai peut-être plus la prochaine fois, tu vois. c'est un voyage, c'est l'existence, quoi, je crois. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai l'impression que la vie, elle te met des choses, des épreuves pour justement t'enlever ces caches et te révéler. Mais pour ça, faut passer par des moments hyper difficiles ou des moments où tu dois te prendre des trucs dans la gueule de, qui sont durs à accepter, quoi, tu vois. Mais c'est pour te révéler et pour justement garder l'essence, quoi. Tu vois, c'est vraiment comme une couche d'oignon pour moi. Je vois, j'ai un morceau qui s'appelle Poids Plume dans mon album L'Aventure, et c'est les couches d'oignon que t'enlèves, quoi. Mmh. Tu vois, pour vraiment garder cette essence, quoi. Tu vois.
Pour revenir à Trouver ta place, c'est intéressant parce que je crois 2013-2014, il y a ta carrière qui est en train de décoller, ta carrière solo. Il y a aussi la carrière solo de Joseph qui est en train de décoller sous le nom de Célim.
Ouais.
Et vous décidez, toute la famille de... Si je ne me trompe pas, c'était un concert de Mathieu, c'est ça? Ou vous réunissez pour la première fois?
Ouais, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça, c'était à Bercy, au concert de Mathieu. Et en fait, il y a toute la famille qui chante à la fin du concert avec Mathieu. Et en sortant, je crois que c'est Mathieu, je crois, qui dit... Mathieu, je crois, qui dit mais ce serait dingue de faire un projet juste enfin en famille et tout ça. Et moi je leur dis ah ouais non mais les gars là, moi je sors mon album et tout, ça y est enfin je sors mon truc et tout, j'ai pas de direct à faire un truc avec la famille et tout. Donc j'étais un peu la l'ado révolté
reviens dans le giron là.
Ouais, c'est ça. Et en fait c'était impossible de passer à côté de ça, et j'ai tellement bien fait de le faire, c'est une expérience les plus incroyables de toute nos vies. Ça, c'est sûr et certain.
Donc, à la base, vous avez ce concert.
Ouais.
Vous décidez de créer un album, de faire d'abord une tournée, c'est ça?
On fait une tournée.
Ça se joue en live.
Exactement. Au début, c'était vraiment genre que du live. Ce qui était génial, c'est qu'on était un groupe de rock. C'est-à-dire que Joseph était à la batterie, moi j'étais à la basse, mon père il était à la guitare, Mathieu parfois. Et parfois, on bougeait, jouait de la batterie aussi, jouait du clavier et tout. Et donc on n'avait pas de musicien additionnel, on était vraiment que nous. Donc ça, c'était quand même
génial.
Faire un groupe de rock avec son père, c'est quand même franchement, et ses deux frères, c'est quand même un espèce de fantasme que j'ai pu réaliser dans ma vie. Donc ça, c'est quand même dingue.
C'était un truc que t'avais quand t'étais petite?
Non, mais bon, j'y pensais même pas. Mais je veux dire, quand ça s'est réalisé, je me suis dit mais attends, qui peut vivre ça, quoi? Qui peut vivre ça? Parce qu'en plus en musique, on se dit beaucoup de choses parce qu'on est assez pudique finalement nous. On est très proches, mais on est quand même assez pudique. On se dit pas je t'aime, on se fait pas des câlins toute la journée. Mais en jouant de la musique, en vivant ces moments-là devant les gens, on s'est dit des choses, on a scellé des liens incroyables, quoi.
Vous dites pas je t'aime dans la famille?
On se le dit, on se le dit grave. On
vous
se
avez écrit une chanson.
Ouais. Non, on se le dit, mais je veux dire, mais il y a toujours un peu de pudeur, quoi, tu vois, avec tes parents, avec tes frères et sœurs, il y a toujours un peu, une petite pudeur qui est magnifique d'ailleurs, Mais là, on a accédé à quelque chose de très fusionnel, quoi, c'était hyper beau. Et après, donc on a fait cette tournée qui était dingue, et après, à la fin de cette tournée, on s'est dit, ce serait super d'enregistrer un album, quoi, qui ait une trace un peu de ça. Et donc, on a fait ce disque et on a fini la tournée par le Palais Garnier, l'Opéra Garnier. On a joué la dernière date là-bas. Donc là, c'était... En plus, c'était un rêve pour moi parce que j'ai commencé par le classique. J'ai fait du chant lyrique aussi un peu. Donc, de jouer là-dedans, là, c'était dingue.
Et il y a ta grande sœur aussi.
Ouais.
Ta sœur aînée qui, elle, pour le coup, est plus dans l'image.
Ouais, exactement.
Qui était pareil, qui était dans le projet
ouais,
aussi.
Ouais, qui a fait toutes les images, qui a fait des
incroyable.
Clips. Voilà, c'était fou. Et ce qui est assez beau, c'est que mes parents, qui sont séparés il y a très longtemps, ils n'avaient pas beaucoup de liens. Parce qu'une séparation difficile et tout. Et grâce à ce projet famille, mes parents s'en sont revus et se sont reliés quelque part.
Incroyable.
Et donc, cette tournée a aussi permis de reconsolider la famille. Ça, c'était magnifique.
Incroyable.
Ouais.
Et toi, en fait, par rapport à tout ça, t'es la petite dernière. Parce que c'est la petite dernière.
Ouais.
Comment tu vis justement le fait de trouver ta place au sein de ce quatuor maléfique
En fait, c'est bizarrement, c'est pas si compliqué dans le sens où je suis une fille déjà. C'est que des gars, hein. Là, en tout cas, ceux avec qui j'ai fait de la musique, hein. Et mon père, mes deux frères, c'est des garçons. Donc, moi, je suis une fille, j'ai une autre sensibilité, je raconte pas exactement les mêmes choses, j'ai pas les mêmes problématiques, j'ai pas les mêmes réflexions, j'ai pas la même sensibilité exactement. Donc, déjà, ça me démarque direct. Et il y a aussi un truc, c'est que mon instrument, c'est le piano et que ils jouent pas de piano les autres vraiment. Enfin, un petit peu, mais pas vraiment. Et moi, c'est vraiment mon instrument de prédilection. Donc, il y a déjà ces deux facteurs qui sont quand même assez importants, qui déjà d'office me donnent une identité qui est différente. Donc, il y a ça. Et puis, ça me challenge, quoi. C'est-à-dire que je me dis, mais attends, non, va encore plus profondément. Non, là, c'est trop facile, Anna. Non. C'est quoi ce que t'as vraiment envie de dire? C'est quoi, en fait? C'est quoi, toi, en fait. Donc ils m'ont élevé quelque part, ils m'ont ça m'a challengé tout ça, ça m'a aidé en fait à trouver encore plus, je pense, ma voie.
Pour revenir au moment où tu sors du sentier idéal,
ouais,
et tu te dis OK, maintenant c'est là que je dois être. C'est quoi l'étape d'après en fait ?
L'étape d'après, c'est dire oh là, bon alors, mon frère est une star vraiment genre nationale, mon père est un ponte de la chanson française. Non mais tu vois, ouais, c'est vraiment une figure emblématique de la chanson française, tu vois. Je me dis OK, donc vas-y, là j'ai dit à tout le monde que j'allais faire ça et j'ai vraiment envie de le faire. comment on va faire quoi ? Et en fait, je sais pas, il y a un truc comme si la vie me disait c'est cool, on va t'aider. Bah, j'ai commencé à faire des chansons et puis j'ai eu tout de suite des réponses de labels, d'éditeurs. Ah, t'as du talent. Ah ouais, malgré la famille, on sent qu'il y a un truc, t'écris bien.
Malgré la famille.
Non, mais tu vois, parce qu'ils pourraient se dire, on pourrait te signer pour des mauvaises raisons aussi, hein, tu vois. Et je sentais que c'était pas que pour ça, qu'il y avait quand même quelque chose qu'ils me signaient parce qu'ils disaient qu'il y avait quand même un certain talent et tout. Et donc, je commençais à faire des concerts, des gens qui venaient de plus en plus à mes concerts. Donc, je commençais par le CDL, puis après la scène Bastille, puis après le Café de la Danse. Enfin, tu vois, ça commençait à monter et tout. Des gens qui voulaient me voir en concert, qui me laisser des messages et tout. Et puis j'ai été signée et puis j'ai fait ce premier album. Enfin, tu vois, ça s'est fait comme ça. C'est, la vie m'a dit, bon, bah, vas-y. Après, c'était pas facile. On me parlait de ma famille tout le temps. Mon prénom était plus la sœur 2 et la fille 2 que Anna. Enfin, j'ai des médias qui ont été très, très durs avec moi à des moments au début aussi. Genre en mode, faut qu'elle fasse ses preuves, celle-là. On va pas l'aménager, tu vois.
Wow.
Donc, non, ça a pas été facile. Je me suis pris des grosses portes, des humiliations aussi à des moments, mais c'est tout ça en fait, tu vois, c'est pour ça que moi je trouve que tous les passages négatifs qu'on peut penser négatifs, ouais, sont toujours là pour te dire mais attends, mais ça, mais cet article par exemple qui est qui on peut croire prescripteur et qui me défonce en disant on parle même de mon pédigré comme si j'étais un chien, enfin, oh, tu vois, des trucs vraiment durs,
ouais.
Et ben cet article là je suis en déprime pendant 2 jours parce que mon album il sort dans une semaine et que j'ai les boules, mais cet article-là, eh ben en fait, ça va être le terreau de ce que je vais devenir après et où je vais être encore plus forte. Et
qu'est-ce que t'en fais de cette boule-là, en fait, ce truc-là?
Ben, je le garde avec moi. Je me dis pas que ça n'a pas existé. Je le garde avec moi. Je me dis OK, ça c'est un fondement pour moi parce que ça je sais que c'est, je sais qu'en fait je suis beaucoup plus puissante que ça et que ouais, je plairai pas à tout le monde et que ouais, il y a des gens qui vont trouver ça vraiment nul, mon nouvel album, et qui vont pas du tout être touchés par ma voix, qui vont me trouver nulle, moche et insignifiante. Mais il y a des gens qui vont me trouver extraordinaire et qui vont être hyper touchés et qui vont venir à mes concerts et qui vont acheter mon album. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça aussi de se dire mais non, mais oui, je suis imparfaite et je ne plairai pas à tout le monde, mais c'est pas grave, c'est pas parce que cette personne-là, je lui renvoie ça, que je suis pas aimable en fait.
Ça, c'est ce que tu te dis aujourd'hui.
Ouais.
J'imagine que sur le moment, c'est pas aussi simple que ça.
Bah évidemment que non. Mais évidemment que non. Tu te dis mais je suis nulle, je suis désaimée, ça marchera jamais, je suis pas acceptée, j'ai pas ma place, encore une fois.
Ouais.
Mais en fait, tu te rends compte que toutes ces embûches t'aident à trouver encore plus ta place. Voilà. Et en fait, moi aujourd'hui, c'est drôle parce que j'ai des masterclass, tu vois, pour parler de trouver sa voie, comment trouver sa place. Mais c'est aussi de par toute cette expérience que j'ai vécue par rapport à ma famille et tout. Et aujourd'hui, il y a des gens qui me disent mais ça m'a fait trop du bien ta masterclass, ça m'a donné envie de faire ci ou de faire ça. Mais en fait, cet article là dont je te parle, eh bien c'est grâce à lui aussi que je fais ma masterclass, tu vois, et que je parle de ça. Donc en fait,
tu fais vraiment une masterclass sur trouver sa voie.
Ouais,
trop marrant. Ok.
Pourquoi?
Mais non, parce que c'est un peu ça que je voulais te faire parler, quoi. C'est trop marrant.
Ouais.
Trouver sa voie, trouver sa place, finalement, c'est un peu pareil.
Bah, je fais exactement ça. J'en donne dans pas mal d'endroits où je vais faire des concerts.
Ok.
Ouais,
tellement intéressant. Et alors, sans vouloir parler pour Mathieu, mais c'est vrai que lui, il se fait appeler M. Il y a Joseph qui se fait appeler Selim. Toi, tu te fais appeler Nash. On a un peu l'impression que le nom Chedid, il est là. Le plus loin, c'est... Le...
non, en
il y a,
plus...
Il y a un héritage qui est à la fois extraordinaire et en même temps qui est là, quoi, qui pèse. Hein.
Ouais. Moi, ça me pèse pas. Aujourd'hui, moi, j'adore qu'on m'appelle Nash Chedid, tu vois. Mais par contre, Nash, pour moi, c'est important parce que Nash, c'est un endroit où je vais pouvoir... Moi, qui suis une ancienne grande timide... où je vais pouvoir oser des choses. Nash, c'est un peu un avatar. Genre, je sais qu'avec Nash, je peux aller au bout du monde et je peux faire tout ce que je veux. Tu vois, même me planter et faire un truc. Mais quelque part, Nash Chedid, je le garde aussi un peu pour moi, pour mes amis, pour mes chéris, pour ma famille, pour tout ça. Parce que c'est important pour moi aussi de pouvoir avoir cette intimité. Okay. Tu vois. Parce que je suis très généreuse et moi j'ai tendance à ouvrir la porte grand de chez moi, de mon cœur, de tout ça, à dire eh, venez venez, pas de souci, tout le monde peut rentrer. Et en fait c'est pas possible, tu vois, je faut quand même un peu garder une intimité, garder se recharger aussi et tout. Donc c'est une manière de ça, et c'est une manière aussi de d'expérimenter des choses artistiquement aussi, Nash, parce que Nash elle peut être jaune, verte, bleue, rose, changer de couleur, changer de forme, changer d'état. Je fais ce que je veux avec ça, quoi.
Comment tu t'as inventé ça ?
Le nom ?
Ouais, enfin le nom, mais aussi l'idée de te dire, ok, je peux en créer un personnage, quoi.
Bah en fait, le nom c'est facile parce que le nom, tout le monde m'appelle Nash depuis que je suis, c'est mon surnom depuis que je suis ado. Mes meilleurs amis m'appellent Nash, et d'ailleurs maintenant quand mes meilleurs amis font, hey Nash, les gens ils disent, ah c'est bizarre, elle l'appelle Nash son scène, mais non, pas du tout, c'est vraiment mon surnom à la base.
Et à la base c'est ton surnom d'enfance,
ouais, c'est
quoi.
C'est ça, ouais. Donc c'est mon surnom, et puis après je me suis dit, c'est pas Nash, mais c'est un peu comme un espèce d'onomatopée, Nash, et puis Nash, il y a un truc qui est genre qui peut exploser. Et Nash, ça veut dire, en allemand, je crois que ça veut dire aller de l'avant. Tu vois, aller de l'avant, aller vers, quelque chose. J'aimais bien ce mouvement-là. Et donc voilà, je me suis dit, mais vas-y, et puis peut-être qu'un jour, je ferai un truc sous le nom d'Anna Chédide. Enfin, tu vois, quand j'écris une chanson pour quelqu'un d'autre, je m'appelle Anna Chédide. Quand je collabore, parfois en duo, je m'appelle Anna Chédide. Enfin, tu vois, ça dépend des projets, quoi.
Ok. Tu peux choisir.
Ouais.
Et c'est ça qui est bien.
Ouais. Exactement. Ouais.
Et ça t'aide, tu crois, à justement cet avatar, ça t'a aidé aussi à trouver ta place, t'as l'impression ?
Bah c'est sûr, évidemment. Je pense que Anna Chédide, ça m'aurait trop plombé, ça m'aurait mis beaucoup trop de pression par rapport à mon héritage familial.
Ouais.
Là, Nash, tu vois, je fais ce que je veux, je m'amuse, c'est ma famille, mais en même temps, c'est que mon truc à moi aussi, tu vois. Et Anna Chédide, j'aurais pas eu envie d'impliquer tout le monde dans mes délires, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon délire, Nash. Et Anna Chédide, quand je joue avec ma famille ou quand je suis auprès de choses, tu vois, j'ai vraiment envie d'écrire un livre. J'ai fait une série de podcasts, j'ai envie d'écrire un livre, là, et ben, je pense que je l'écrirai sous le nom d'Anna Chédide, c'est sûr, tu vois. Mais parce que je délivrerai autre chose, tu vois. Ouais, en tout cas, en commençant ce métier, je voulais pas impliquer ma famille là-dedans. Je voulais que ce soit vraiment que mon truc.
Ok. Tu parlais de cette série de podcasts. T'as sorti cet été sur le podcast Métamorphose,
ouais,
hein,
ouais.
Une mini-série de 6 épisodes.
Ouais.
Tu racontes un peu la conception, en fait, de cet album.
Ouais.
Pourquoi c'était important pour toi de venir le mettre en mots et de venir expliquer, de faire limite... pas une explication de texte, mais d'expliquer un petit peu la genèse.
Bah déjà, j'avais envie de l'expliquer. Cet album, je voulais raconter l'histoire de cet album parce que pour moi, il a une histoire très particulière et je voulais que les gens embarquent dans cette histoire avec moi. Ils auraient pu, on peut l'écouter sans, évidemment, mais j'avais envie, moi, de partager ça, et j'avais envie de le partager comme ça. Parce qu'en fait, je trouve que dans le podcast, je me suis isolée 4 jours pour enregistrer et écrire. J'ai tout fait, le montage, enfin voilà, j'ai tout fait dans ce petit podcast-là. Et j'étais toute seule, comme quand j'ai écrit cet album toute seule dans mes montagnes. Et on sent la solitude. Et je trouve que dans une voix seule comme ça, dans une personne qui part 4 jours enregistrer sa voix pour raconter son truc, qui est toute seule, on sent cette solitude et on sent justement cette intime que j'ai mis dans mon album aussi. Et donc pour moi, c'était le médium parfait pour raconter ce disque et la solitude que j'avais vécue et le fait d'avoir tout fait toute seule. Ce podcast, pareil, c'est moi qui ai fait le mixage, tu vois, j'ai tout fait, quoi, là-dedans.
T'as bidouillé, t'as appris le montage et tout.
Ouais, ouais.
Ouais, c'est trop bien. Bon, bah, parlons de cet album, hein, qui s'appelle Peau Neuve.
Ouais.
Si j'ai bien compris, hein, parce que j'ai écouté la série de podcasts, tout part d'une grande porte dans la gueule tout à l'heure.
Ouais, alors là, celle-là, je veux dire, elle était en or massif.
C'est un mur.
Ah ouais, c'est carrément une maison qui s'écroule sur ta gueule.
2020, c'est ça ?
Ouais.
Rupture ?
Ouais.
Ça faisait 10 ans que t'étais en couple, c'est ça ?
Ouais.
Donc, j'imagine à quel point... donc, attends, 2020, 33 ans,
ouais.
23.
Bah ouais.
Ça y est, t'étais parti pour la vie, quoi.
Touche, mais non, en fait.
Ça ne marche pas.
Mais non. Et en plus, je m'attendais pas du tout. Donc, en fait, c'est ça, encore une fois, ce scénario parfait. Moi, j'étais en mode autoroute, c'est bon, ça c'est OK. Le mec, la maison, la sécurité, c'est OK, ça c'est bon, c'est coché. Hop, on passe à autre chose, tu vois. Et en fait, pas du tout. Je m'attends pas du tout. Le truc s'écroule d'un coup, j'ai plus de maison, j'ai plus de mec, je me retrouve solo. Et en plus, je te dis, ma tournée s'arrête en même temps et mon contrat avec mon label s'arrête en même temps. Ben, c'est sûr, c'est de la vie qui fait, OK, là, c'est le chaos, tu vois. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, tu vois, là, je me dis, je suis en panique absolue. Je me dis, en fait, il y a tout le scénario que je m'étais prévu. Bah, il s'écroule d'un coup, là. Donc, tu vois plus rien. C'est-à-dire que il y a juste ton cœur qui bat. T'es encore en vie, hein. Mais, Mais tout est possible, tu peux décider.
Et c'est important
décider.
De se rendre compte que t'es encore en vie.
Heureusement. Mais tout peut, c'est-à-dire que si demain je veux aller élever des chèvres dans le Larzac, je peux. Si demain je veux partir au bout du monde, changer de vie, je peux. Enfin, je veux dire, j'étais dans un truc où je pouvais tout faire, en fait, tu vois.
T'as pas d'attache. T'as pas d'enfant.
Pas d'enfant.
Tu décides.
Pas d'attache.
C'est toi qui.
C'est, voilà. C'est.
Page blanche.
C'est page blanche totale. Et donc, je suis partie toute seule. Tout le monde me disait, mais viens à la maison, mais viens à la maison, mais viens. Et en fait, j'ai fait, non, je m'en vais. Je suis partie pendant 6 mois toute seule. J'ai écrit cet album dans les montagnes. Je suis partie, pendant 6 mois, je te dis, dans les Cévennes, dans la Drôme, au Maroc. J'ai marché. Donc, j'étais là dans mes journées. Je marchais, j'écrivais. Je me reconnectais un peu à moi. Je commençais à ressentir un peu des choses, tu vois. Mais j'étais coupée du monde, quoi.
Avec le confinement en plus, c'était en plein dedans, non ?
Ouais, plein dedans. Donc, je voyais pas ma famille, je voyais pas mes potes, enfin, tu vois.
Et tu t'es pas dit, tiens, je vais aller me confiner avec la famille, quoi,
non.
Avec la MIF.
Non, au contraire, je me suis dit, ok, là, tu vis un truc chaotique. Tu peux pas t'envelopper dans du coton et faire comme si ça n'existait pas. Faut que tu te confrontes à ce qui se passe là. Parce que sinon, il y a un problème, en fait. Il y a un problème. Si ça s'est passé, c'est que ça, il y avait un dysfonctionnement que tu n'as pas vu. Et donc, faut que tu ailles voir ce que c'est. Parce que si tu vas dans du coton, tu verras pas.
C'était quoi le dysfonctionnement alors ? C'était l'image peut-être que tu te faisais d'Anna entre ses 23 et ses 33 ans, c'est ça ?
Non, en fait, je pense que tout ce qui s'est passé était merveilleux et qu'on a vécu un moment merveilleux ensemble et tout, mais que je pense que quand même, il y avait un truc d'idéalisme qu'on est beaucoup les êtres humains quand même à se mettre dans des scénarios parfois qui nous rassurent, mais en fait, on se pose pas vraiment la question de est-ce que c'est vraiment bon pour nous ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, tu vois ? Et est-ce que c'est vraiment nous et tout ça ? Est-ce que c'est vraiment épanouissant et tout ça ? Et en fait, juste des petits évitements, quoi. Tu vois, des petits évitements. Et voilà, jusqu'au moment où tu peux plus rien éviter. Et là, t'es obligé de te mettre face à toi-même et te dire, bon, bah, vas-y, faut que je reparte dans une nouvelle peau, là, une nouvelle vie. Qu'est-ce que je veux pour cette nouvelle vie ? Qu'est-ce que je veux garder ? De quoi je veux me libérer ? Enfin, tout ça, quoi.
Un petit café, peut-être. Non, mais je dis ça parce qu'il y avait pas mal de bruit derrière. Peut-être que les gens vont se demander.
Ah ouais.
On est dans un café.
Ouais.
Donc ouais, pas mal de remise à zéro.
Ouais.
On est parti. Qu'est-ce qui te donne envie de dire ok, je vais écrire un album, je vais en faire de la musique. Parce qu'en fait, à la base, tu pourrais juste te dire j'ai envie de rien, j'ai juste envie de me terrer dans un coin. Ouais. Pourquoi écrire ?
Bah, c'est parce que c'est mon seul moyen de ma seule issue, quoi. C'est-à-dire que c'est l'écriture, je sais, et les chansons qui vont me faire renaître, qui vont faire que je vais me retrouver, en fait, que je vais retrouver de la vitalité, je vais retrouver de l'entrain, je vais retrouver de la foi. C'est-à-dire quand j'écris une chanson, moi, je suis obsédée, je pense qu'à ça, je veux trouver le bon mot, la bonne mélodie. Et en fait, quelque part, ça occupait mes journées et ça me redonnait un sens. Ça me redonnait une direction, un sens. Et donc, en fait, cet album m'a redonné un sens. C'est ma musique qui m'a vraiment redonné un chemin. Et quand j'ai eu cette révélation mystique dans le hammam au Maroc et que j'ai écrit la chanson Peau Neuve après, là...
Comment ça, une révélation mystique ? Tu peux pas me dire ça comme ça en passant.
En fait, donc après, je suis allée au Maroc.
Tu me dis ça comme si j'étais au courant.
Dans mon voyage, je suis allée au Maroc, là. Ouais. Et en fait, en arrivant au Maroc, j'ai fait un hammam. Mais un vrai hammam, tu vois, où avec t'as la femme qui est là, qui te lave le corps, qui te jette des seaux d'eau, et t'as ta peau qui part comme ça. Et j'ai une révélation vraiment mystique où je me suis dit, oh, mais en fait, c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de faire peau neuve. J'ai eu ce truc peau neuve. Et je suis rentrée et j'ai écrit peau neuve. Et là, j'ai eu ce truc de me dire, ok, c'est mon album, c'est peau neuve. C'est ça, c'est sûr, tu vois. Et après, j'avais cette tracée de peau neuve. Et en fait, ce truc-là, c'est juste ces deux mots m'ont redonné un chemin. Et c'est Peau Neuve qui m'a embarqué, qui m'amène là jusqu'à toi, là maintenant, hein, tu vois. C'est Peau Neuve qui me guide depuis 3 ans.
Depuis 3 ans ?
Ouais.
Waouh. Et ça fait 3 ans que tu es en train de, que tu ouais. bosses sur cet album.
Ouais, j'ai écrit il y a 3 ans, donc j'ai mais mon cheminement là un peu initiatique dans les montagnes, c'était il y a 3 ans. J'ai écrit ça, après je suis rentrée, j'ai enregistré l'album pendant longtemps, ça a duré 9 mois parce que j'ai produit le disque, donc j'ai trouvé de l'argent, enfin c'était toute une épopée.
Pourquoi t'as envie de produire le disque ? C'est pareil, tu dis ça comme si c'était t'avais décidé ça comme ça, mais c'est pas
parce que c'est pas une
décision anodine.
Je suis rentrée et j'avais plus de maison de disque et j'avais plus envie de revenir dans une grosse machine, j'étais dans une grosse maison de disque avant et j'avais envie d'un truc beaucoup plus artisanal et aussi beaucoup plus en adéquation avec cet album qui était très intime et tout ça. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, Anna, monte ton label en fait. Et j'ai une âme de productrice, j'adore J'ai toujours un peu mis un peu en avant les artistes que j'aimais bien. J'ai toujours un peu donné des petits coups de pouce et tout. J'ai cette âme de productrice. Et je me suis dit, mais c'est maintenant, en fait, fais-le avec Peau Neuve, en fait. Et c'est un super album pour monter son label, tu vois. Donc,
pourquoi t'as eu envie de le faire là, maintenant?
Bah, parce que c'est cet album-là qui m'a donné envie, en fait. C'est cet album-là, c'est toute cette audace que j'avais pu avoir en décidant de faire mes arrangements, de faire une formation d'ingé son, de produire et de réaliser au niveau de la production sonore mon album. Je me suis dit, mais va au bout, quoi. Produis-le aussi physiquement, quoi. Sors-le, quoi. Tu vois.
T'avais besoin de reprendre la main sur tout le process, c'est
ouais,
ça?
J'avais besoin de reprendre la main sur tout le process parce qu'en fait, je me suis dit, ok, là, faut que tu remettes des jalons, tu vois, faut que tu reposes des pierres pour reconstruire une vie qui est toute nouvelle où t'as rien de repère d'avant, à part ta famille et tes amis, mais bon, tout a changé, t'es plus dans le même endroit, enfin, tu vois. Et donc, en fait, voilà, qu'est-ce qui t'amuse? Qu'est-ce que t'as envie d'essayer de faire? Qu'est-ce que tu veux? Expérimente des nouvelles choses. Et en fait, j'ai fait que ça. J'ai fait que expérimenter des nouvelles choses.
Et comme quoi? Tu disais,
j'ai fait une formation d'ingé son pour rentrer dans mes sessions et vraiment réaliser mon disque de but en blanc. Tu vois, avant, je réalisais ma maison de disque, me faisait comprendre qu'il fallait que c'était cool, j'étais autrice compositrice, mais que voilà, fallait aussi, j'avais pas assez confiance pour m'imposer en disant je veux réaliser mon album, tu vois. Là, bah, j'ai pas laissé le choix, j'ai réalisé mon album, je l'ai fait, c'est tout, et je sais que, et je suis très heureuse de la réalisation de cet album d'ailleurs, que je trouve assez personnel justement et un peu audacieux parce que j'ai beaucoup moins d'expérience que plein de réals de disques, mais justement j'ai expérimenté des trucs, donc j'aime bien. Et pareil, le label, j'avais jamais fait ça, donc j'ai trouvé monter des dossiers de subventions, enfin tu vois, j'ai fait des dossiers de subventions pendant des semaines, trucs que j'avais jamais fait, des budgets, des machins, trucs que j'avais jamais fait, tu vois. Et j'ai réussi à te récolter de l'argent. Et toutes les victoires étaient dingues. T'as une sub qui tombe, t'as envie de pleurer de joie parce que ça fait 2 semaines que tu te galères à faire un truc que tu sais pas faire. Et grâce à cet argent, tu vas pouvoir payer tes musiciens ou payer ton ingé son ou payer le graphiste. Enfin, tu vois, c'est que des victoires. Quand t'es dans tous les processus, tout est une victoire. Tous les petits trucs sont incroyables, en fait, tu vois.
Tu t'imagines pas revenir dans un label
pour
dans
l'instant,
une major?
Non. Pour l'instant, non. J'aimerais bien que mon label devienne major. Non, j'ai quand
même.
Non, pas une major.
Bah, t'as le droit.
Mais j'aimerais bien que mon label grandisse.
On parlait de succès
produire
tout à l'heure.
Ouais, et que je puisse produire d'autres gens, d'autres projets. Ça, c'est mon rêve. Vraiment, c'est mon rêve. Ouais.
Ok. Mm. Ton album démarre par une chanson qui s'appelle Cadeau d'adieu, qui est, je crois, l'une des plus belles chansons d'amour que j'ai jamais entendues. Hein.
Ah, merci.
c'est la chanson de rupture, pour le coup.
Ouais, exactement.
C'est la chanson qui marque le début de la nouvelle
de la
aventure.
Fin. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire?
Bah, en fait, je me suis dit, mais c'est marrant, les chansons d'amour, quand j'étais avec ce gars, je lui ai jamais écrit une chanson d'amour, tu vois.
En 10 ans.
J'ai jamais écrit une chanson d'amour. Lui, il était auteur-compositeur, il m'avait écrit plein de chansons d'amour. Et moi, je sais pas pourquoi, j'avais pas écrit de chansons d'amour, quoi. J'avais écrit d'autres choses. Et je me suis dit, ah, c'est marrant, j'ai envie de lui écrire un truc là maintenant, alors qu'on n'est plus ensemble. Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait, on devrait écrire des chansons d'amour que quand on est amoureux? Pourquoi on n'écrirait pas une chanson d'amour quand on n'est plus ensemble? Et je me suis dit, ah, c'est une bonne idée de chanson, tiens. Et je me suis dit, en plus, ce que j'aime bien dans cette chanson, c'est cadeau d'adieu, c'est je te laisse cette chanson d'amour comme cadeau d'adieu, même si. Même si c'est trop tard, si t'en veux plus, je le fais pour notre histoire, pour tout ce qu'on a vécu. Et ça parle aussi de pardon, de dire, ok, ça m'a tellement fait souffrir qu'on se sépare, j'étais tellement malheureuse, en fait. Mais en même temps, je te pardonne parce que, en fait, c'est tellement beau ce qu'on a vécu que, en fait, je préfère garder ça, que garder que le drame, quelque part.
Tu racontes aussi dans le podcast que tu t'es retrouvée à aller mixer ton album à New York.
Ouais.
Par un mec qui est une ponte que je connaissais pas pour le coup.
Ouais.
Et que, si je me trompe pas, tu t'es retrouvé avec un ami qui était avec ce mec, c'est
ouais,
ça, à New York?
En fait, non, en fait, ce qui est dingue, c'est que donc, je fantasmais sur ce mixeur parce que je trouve qu'il fait un son extraordinaire. Mais moi, j'avais un tout petit label, j'avais pas du tout d'argent. Donc, pour moi, c'était même pas envisageable, tu vois. Et je regarde une story Instagram et je vois un super pote à moi qui est à New York dans son studio. Donc, je lui envoie un texto, un message. Tu es avec Fab Dupont à New York? Il me dit, ouais. Je dis, oh, s'il te plaît, je t'en supplie, passe-lui le lien de mon album, s'il te plaît. Il me dit, ah, si tu veux, je le fais. Mais bon, le mec, il est en train de faire André 3000 et je sais pas quoi. Enfin, on va discuter des trucs de fou et tout. Crosby, je sais pas quoi. Je suis là, oh, putain, un truc sur Crosby, je sais pas quoi. Je dis, s'il te plaît, quand même, on sait jamais, tu vois. Et donc, il lui passe le truc. Et genre, 2 jours plus tard, j'ai un message qui, où il me dit « Hello, j'ai écouté ton album, j'aime beaucoup. Si tu veux, on se fait un visio et tout. » Descente d'organes. Et là, je fais « Waouh !» Et donc là, je me retrouve à faire un visio avec le gars dans son studio. Donc, ce gars que j'ai vu dans des tutos qui explique des trucs de plugging, tu vois, que je vois là en vrai, tu vois. On me dit « Sorry, il y a André qui arrive au studio. » Enfin, tu vois, genre, je suis là « Oh, ok, sorry, tu vois. » Il me dit « Écoute, j'ai écouté son album, je trouve hyper cool. Qui a fait la réal, les arrangements, c'est super bien. » Je dis « Bah, c'est moi. » Il fait « Ah bon, bah, hyper, hyper intéressant. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et j'aimerais bien le mixer, son disque. » Je fais « Ah bon ?» Et mais je dis « Ok, bah, super. » Il me dit « Bah, viens à New York et tout, on le mixe, c'est cool, tu vois. » Et il me dit « Mais vois avec mon agent pour le prix, quoi, tu vois, je suis, oh, yeah. Et donc là, évidemment, l'agent m'annonce un truc fou que je peux évidemment pas faire. Et donc, je réfléchis, je me prends la tête et j'arrive à trouver un espace d'entre-deux où je leur propose un truc. L'agent me dit, ah, franchement, je pense qu'il va pas accepter. Franchement, c'est dérisoire pour lui et tout. Et en fait, il m'a rappelé, il m'a dit, bah, vas-y, il a vraiment envie de le faire, on le fait. Donc, je suis partie à New York, mixer mon album avec lui. C'était ouf.
Incroyable, hein.
Et surtout, ce qui était ouf, c'est de sentir que, en studio, enfin, on était vraiment en binôme, tu vois. C'était pas le mec et moi derrière. Il me posait vraiment des questions. On a parlé beaucoup de la production et tout. Et que je sentais que j'étais aussi, j'avais ma place en tant que réal, tu vois. Et même aussi, dans ma famille, quand j'aurais fait écouter mon album et c'est moi qui l'ai réalisé, tu vois, ils étaient assez impressionnés en me disant, putain, mais c'est bien, les arrangements, ils sont hyper intéressants. J'ai senti que j'avais du crédit en tant que réal, quoi, tu vois.
Bah oui, parce que j'imagine.
Ouais, et ça m'a vachement fait, ça m'a honoré, en fait.
Ça t'as la sensation d'être légitime?
Ouais, j'ai la sensation d'être légitime et ça m'est arrivé il y a pas longtemps aussi que quelqu'un écoute en maison de disque, écoute mon album et ils me disent ouais, tu pourrais me donner le contact de la personne qui a réalisé le disque, j'aimerais bien. Je dis mais c'est moi et tout. Ah bon, mais ça t'intéressera peut-être de faire une réal sur un truc. Et j'ai dit mais ouais, super. Et moi j'adorerais développer ça, tu vois, j'adorerais pouvoir réaliser pour d'autres gens, ça me ferait vraiment
Est-ce que tu peux expliquer pour les gens quelle est la différence entre interpréter et réaliser, pour le coup, quand tu dis de réaliser, qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais, alors en fait, en gros, donc t'as ta chanson piano voix, ok, donc c'est une chanson juste piano voix, et après donc t'as les arrangements, ok, qu'est-ce que tu vas faire intervenir comme instrument, comme arrangement dans ton morceau. Et après, la réalisation, c'est ok, les arrangements, donc t'as fait tes arrangements, t'as rajouté ta basse, ta batterie et tout ça, c'est toute la production. Ok, comment la basse on veut qu'elle sonne, à quel moment on veut qu'elle soit comme ça, ou alors la batterie par exemple, est-ce que je veux vraiment qu'il y ait le son du charlet ou le son du tom ou le son de la grosse caisse, vous pourrez regarder ce que c'est, mais ok, je veux que ça sonne comment. Là, ce morceau il est beaucoup plus sweet, donc je vais mettre un filtre pour que ce soit beaucoup plus doux. Là, ce morceau il est hyper excité, je veux que ça claque, donc je vais mettre un espèce de réverb énorme pour faire un écho comme ça. Donc c'est tout ce qui est la production du son, quoi.
Mais c'est incroyable parce que là je t'entends, t'es en train de le dire,
ouais,
et donc je l'imagine à quel point dans ta tête ça doit sonner,
ouais,
mais après d'être capable de le faire sur l'ordinateur,
ouais,
pour que ça sonne vrai,
ouais,
il y a une grosse c'est là où c'est toute la phase
t'es
payé des phases
de
des
technique
tutos.
Voilà, la phase de technique. Et aussi j'étais accompagnée de Kevin de Langeril, qui est mon ingé son de toujours, qui était avec moi en studio, et lui qui a vraiment cet art. Moi quand je lui disais ok, là je veux que ça fasse ça comme son, ou là je voudrais que ça fasse de l'écho, qu'il y ait un délai, ou là j'aimerais bien que ce soit, tu sais, un peu comme, je lui disais des trucs genre j'aimerais bien que ce soit comme si ça coulait comme ça, il me dit ah, attends, j'ai un super plug. Et là, il me faisait écouter le truc. Il faisait... Ah ouais, c'est super, c'est ça. Enfin, tu vois. Et donc, voilà.
Ok. ton album sort... ton album sort...
Fin le 20 octobre. Ouais.
20 octobre. Je me demandais, en fait... parce que, tu vois, tout à l'heure, on parlait de succès, justement. Je me demandais à quel point comment dire, tu pars du principe que cet album va contribuer à ton succès.
Ouais. Ah bah, c'est sûr. Mais déjà, hein.
Déjà ?
Bah oui. En fait, j'ai écrit ces chansons, j'ai enregistré cet album, j'ai monté mon label, j'ai sorti un premier morceau, j'ai sorti un premier clip. Toutes les étapes, pour moi, sont un succès, dans le sens où c'est des victoires, en fait. C'est des victoires. Pour moi, le succès, c'est aussi et surtout, je crois, ce que ça te fait ressentir de le faire. Plus que le retour des gens. Alors, le retour des gens, c'est magnifique, hein. Mais si on attend ça pour être heureux, on est mal barré. Je pense que ce qui est important, c'est surtout de se dire que moi, ça me fait du bien, en fait, de sortir ça. Ça me fait plaisir et que je l'aime, cette chanson, et que je l'aime, ce clip. Que j'ai envie de le partager avec les gens. Et que rien que ça, c'est une victoire, tu vois. Et ça y est, il est en ligne, le truc. Je crie, quoi, tu vois, de joie. Et après, je reçois des messages extraordinaires et ça me bouleverse et de sentir qu'il y a des gens qui veulent, bah, voilà, faire de la promo avec moi, m'interviewer, parce qu'ils ont bien aimé mon album. Ça me fait trop plaisir. T'imagines même pas. Mais je veux dire, l'important, c'est, voilà, toi, tu fais ce que tes podcasts parce que ça te fait du bien et que t'as envie de le faire et que ça te fait plaisir. Ça te met en joie de faire ça, tu vois.
Oui.
Et tu trouves une place pour toi là-dedans. Et ben, c'est ça qui est important. Pour moi, le succès, c'est ça. C'est pas que les gens vont te dire c'est génial tes podcasts. Parce qu'il y a des gens qui vont trouver ça super, il y a des gens qui vont trouver ça nul. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, donc, ouais, c'est sûr.
En fait, on peut pas se reposer là-dessus.
Et t'as l'impression que c'est un truc que t'as appris là, par rapport à la petite Nash qui avait 20 ans?
Bah oui. La petite Nash qui avait 20 ans, t'inquiète qu'elle s'est reposée que sur le regard des autres. Mmh. Et si elle avait pas l'approbation, elle tombait avec sa mèche, tu vois. La mèche dans les cheveux. Là, la Nash d'aujourd'hui, elle sait que que tout peut basculer du jour au lendemain et que si t'attends de te reposer sur l'autre pour tenir debout, t'es mal barré.
Et au sein de, et vis-à-vis de papa et de ton grand frère, comment ça se passe justement? T'as toujours ce besoin de validation?
Non,
ou
pas du tout.
Vachement
pas du
plus
tout,
serein.
Pas du tout. Ah non, mais j'en ai rien à faire. Non, pas rien à faire, mais que mon frère aime ma musique, que mon père aime ma musique, c'est génial. Mais ça a autant de poids que quelqu'un que je ne connais pas, ouais, qui me laisse un message dithyrambique nul. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait pourquoi, évidemment ça me fait super plaisir parce que c'est mon père et que quand il me dit putain elle est trop belle ta chanson, ça m'émeut grave que mon père me dise ça, mais c'est parce que c'est mon père, parce que c'est Louis Chédid ou M ou je sais pas quoi. C'est parce que c'est mon père et que ça me touche et que je préfère qu'il aime ma musique qu'il trouve ça nul, tu vois, évidemment. Mais mon album, je l'aurais pas fait écouter avant qu'il soit fini, tu vois. Mais ouais, pas parce que j'avais pas envie d'avoir leur avis, parce que juste je faisais mon truc et que de toute façon, oui, ils aiment pas, ça va pas changer le fait que moi j'aime. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
T'avais pas besoin d'avoir leur validation au milieu, quoi.
Non.
Tu joues aussi à la Cigale, c'est ça, si je me trompe pas?
Ouais.
En mars.
18 mars, ouais.
18 mars 2024. Ouais. Donc je mettrai le lien pour les gens.
Avec
qui.
Joie.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé causer?
Non, c'était bien, je crois.
J'adore poser cette question.
Non, c'est bien.
Oh, pas parce que parfois on parle pas de tout.
Ah,
hein.
Le spectacle, peut-être la tournée, la scène, je sais pas,
ouais,
si tu veux. Ouais, comme ça, on va tirer la cigale. Non, je suis trop contente de repartir en tournée et aussi tout ce cheminement. Moi, j'adore faire des albums, j'adore faire des clips, j'adore tout ça et j'adore tous les processus de mon métier parce que je suis couteau fourchette suisse, on va dire. Mais j'ai plein de métiers, j'ai 12 métiers, on va dire. Mais là, le fait d'arriver sur scène, là, bientôt, là, ma première date, c'est samedi, là. C'est vraiment pour moi la concrétisation de ce projet, c'est vraiment la scène aussi, dans le sens où je prépare vraiment un spectacle musical plus qu'un concert. C'est vraiment un spectacle musical. Tu vas rentrer dans un voyage et puis il y a une vraie scénographie, il y a tout un travail dramaturgique, scénographique et tout ça par rapport à justement la Renaissance et tout ça. Et
je vais parler.
Il y aura des interludes aussi de musique, il y aura pas mal de trucs de scéno et je suis seule sur scène, mais j'ai beaucoup de machines, j'ai un piano à queue et c'est moi qui interagis sur la scéno. Donc voilà, et c'est important pour moi ce spectacle parce que pour moi c'est vraiment la concrétisation, voilà, de tout ce projet, et c'est ce qui va faire en sorte que ça vive, que Peau Neuve soit vivant, en fait, que ce projet soit vivant pendant un an et demi sur les routes. Donc
incroyable.
Voilà.
Bah, j'ai trop hâte de voir ça.
Ouais, j'ai hâte aussi.
Je te prends en photo, si ça te va bien.
Ouais,
merci beaucoup, en tout cas.
Plaisir. Trop cool.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.